Les cours du Collège de France, Jean-François Johanny, chaire matière molle et biophysique.
Bonjour, je vais donc reprendre le cours. Je vous rappelle qu'après le cours, il y a un séminaire. C'est Pierre Sens qui va faire un séminaire aujourd'hui sur des questions de membrane dans le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Je vous rappelle que la dernière fois, je vous ai parlé de transport actif, de moteurs moléculaires et comment ils se déplacent collectivement sur un filament. Alors je ne l'ai fait que sur un filament, donc j'ai une toute petite section pour vous montrer comment ça se passe quand c'est un réseau. Et puis après je parlerai de transport par des vésicules, comment se forment les vésicules et comment elles peuvent être transportées par des moteurs moléculaires. Donc je vais reprendre le même modèle que la dernière fois, c'est-à-dire des filaments. C'est sur ces filaments, les moteurs marchent en file indienne et ils ont une cinétique que j'avais appelée TACEP Langmuir la dernière fois. On va reprendre le plan. C'est transport sur des réseaux de filaments. Alors l'article dont je veux parler, c'est fait par les mêmes auteurs que la semaine dernière. C'est Andrea Parmegiani et son étudiant s'appelle Monsieur Neri. Donc le problème est schématisé sur cette figure ici. Vous avez un réseau de filaments. Alors c'est un réseau qui n'est pas choisi de façon aléatoire. C'est un réseau qui s'appelle un réseau de Hertoch-Reigny. Alors c'est un réseau qui est un peu arbitraire. On fait partir les filaments d'un point et puis on les laisse se connecter au hasard à un autre point du réseau, ayant mis des points au hasard sur la surface qui forme le réseau. La raison pour laquelle ils utilisent des réseaux comme ça, c'est que ça simplifie les calculs et on espère que malgré ces réseaux qui sont un peu simplifiés, on aura des résultats qui sont pertinents pour un problème qui est plus réel. Alors ce réseau, il a une collectivité moyenne. Que je vais appeler C, ça c'est le nombre de filaments qui partent de chaque point du réseau. Vous avez des points ici, celui-là il y en a deux, et ça peut aller jusqu'à des nombres très élevés. Vous allez voir qu'ils ont fait des simulations numériques avec des réseaux qui avaient 30 filaments connectés au même point. C'est la même cinétique que la dernière fois, donc les moteurs, ils ont un réservoir de moteurs ici, et les moteurs s'accrochent et se décrochent du filament. Donc ça, c'est ma cinétique de Langmuir. Et puis, il marche à vitesse constante avec un peu de diffusion sur les filaments. Alors, je vais faire un dessin ici de mon réseau. Et si je... D'abord, les filaments sont orientés, parce qu'autrement, les moteurs ne marchent pas sur les filaments qui ne sont pas orientés. Et si je me focalise sur un nœud qui est ici... Il y a des filaments qui rentrent vers le nœud, puis il y a des filaments qui sortent du nœud. C, c'est le nombre total de filaments. Ici, il y en a trois qui sortent et deux qui rentrent. Et tout ça est distribué de façon complètement aléatoire. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est des simulations numériques sur ces réseaux un peu compliqués, avec les mêmes statistiques que la dernière fois. Donc, les moteurs s'accrochent, marchent, se décrochent. Et puis il faut une règle au nœud. Donc quand les moteurs sont arrivés à ce nœud-là, ils ont une probabilité égale d'aller dans toutes les directions. Je vais mettre tous les filaments sortants. Donc ils ont fait des simulations numériques. Je ne vais pas vous décrire les simulations numériques. La façon dont ils interprètent leurs simulations numériques, ils font un modèle qu'ils appellent un modèle de champ moyen, qui est basé sur une propriété importante de ce que je vous ai décrit la dernière fois. C'est que si je prends un filament entre là et là, par exemple, si le filament est isolé, en fonction du taux qui s'appelait alpha, c'est-à-dire de la valeur du nombre de moteurs dans le réservoir qui est à côté du filament à l'entrée et à la sortie, je connais le courant moyen. Donc toute leur idée, c'est de dire, si je prends un filament, ici j'ai un site J, ici j'ai un site I, les densités moyennes de moteurs au site I et au site J vont agir comme agissait le réservoir. Et si je connais la densité à ces deux points-là, je vais pouvoir déterminer le courant. Après, j'ai simplifié le problème terriblement, parce que si les courants sont reliés aux densités, et la seule chose qu'il suffit de faire, c'est résoudre les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire écrire que le flux est continu. Ça, c'est la conservation des moteurs. Alors c'est ce qui est schématisé ici. Vous prenez ce filament qui est dans le réseau. Tout se passe s'il avait une densité à l'entrée qu'ils appellent alpha effectif, qui est le paramètre alpha que j'avais la dernière fois. Un paramètre bêta qui est la densité à la sortie, qui est le paramètre bêta. Et puis ils utilisent pour ce filament-là ce qui a été trouvé pour un filament isolé avec un réservoir à la densité alpha ici, un réservoir à la densité bêta. Et après, ils ont un système de loi de Kirchhoff à résoudre. Ça, c'est facile, c'est des équations linéaires qu'on peut résoudre. Et ce qui tire de ces équations, c'est les densités ρ et ρj. Alors, il faut définir alpha à partir de ρ et ρj. Je vais écrire que alpha i au point initial, c'est la densité ρi divisé par le nombre de filaments qui sortent, divisé par le nombre de filaments qui sortent parce que le moteur envoie un flux qui est équivalent dans toutes ces branches-là, et donc il y a simplement une partie, un tiers du flux qui est attribué à chaque filament. Donc ça, je vais appeler ça CI out. Donc une fois qu'ils ont calculé, qu'ils ont supposé ρi, ils calculent alpha i, et puis le bêta, il est tel que ρj, ça c'est de l'autre côté, c'est 1 moins bêta j. Donc voilà l'idée de leur approximation de champ moyen. Ils ont testé cette approximation de champ moyen. Ils l'ont testé en fonction du nombre moyen de coordination ici. Ça marche très bien si C est assez grand. En pratique, ça veut dire que si C est entre 2 et 3, c'est-à-dire si le nombre moyen de connexion est entre 2 et 3, c'est pas très en accord avec les simulations numériques. Dès qu'on est plus grand que 3 ou 4, l'accord avec les simulations numériques est très bon. Donc ils utilisent ça pour interpréter leurs résultats. Donc il y a deux paramètres dans cette histoire-là. C'est la coordination moyenne du réseau. Et puis le deuxième paramètre, c'est le paramètre de Langmuir. Alors, c'est celui que j'avais défini la dernière fois. Ils le prennent de façon un peu différente. C'est Kaon plus Kaof sur 2. L sur V, où L est la longueur moyenne d'un filament, ou la longueur du filament localement, mais c'est la valeur moyenne qu'ils prennent, divisé par la vitesse du moteur. Si oméga est très grand, l'échange est très rapide avec le réservoir. Si oméga est très petit, c'est comme si on avait un problème de Taseb tout seul sans la cinétique de Langmuir. Donc après leur stratégie, qui est expliquée sur cette slide-là, ils tracent pour différentes valeurs de oméga, 0,025, 0,3, 3, on pourrait aller plus loin, mais avec plus loin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ils tracent les diagrammes de phase. Donc ce diagramme de phase-là, c'est celui que je vous ai donné la dernière fois. Pour oméga égale 0, cette région ici se réduirait à une largeur nulle. Ça veut dire que j'ai trois états, faible densité, haute densité, et cet état de courant maximum. Si vous prenez un petit échange avec le réservoir, il y a une fenêtre qui s'ouvre ici, où on a équilibre entre haute densité et basse densité. Ça, c'est ce que j'avais appelé les embouteillages la dernière fois. Et puis, si vous augmentez oméga, la région basse densité disparaît pratiquement, et la seule chose qu'on a, c'est équilibre sur un même filament entre une région de basse densité et une région de haute densité. Donc, dans toute cette région-là, il y a des embouteillages sur les moteurs avec une interface brute entre, à l'origine du filament, une densité faible, un front, et puis de l'autre côté du filament, une densité élevée. Donc ils utilisent cette carte avec C ici et oméga ici, et ce qu'ils tracent sur ces diagrammes de phase, c'est combien de filaments ils ont trouvé pour chaque valeur de alpha et bêta. Et on voit très bien les résultats. Si oméga est tout petit, il y a des filaments à basse densité, il y a des filaments à haute densité, et puis il y a quelques filaments où il y a une interface. Donc si oméga est tout petit, ils appellent ça une hétérogénéité du réseau. Ça veut dire que, en gros, un filament, il est toujours soit à basse densité, soit à haute densité, et que c'est les filaments différents qui ont des densités différentes. Quand on passe dans la région intermédiaire, ici, vous voyez que pour C égale 2, pour C égale 10, et puis ici, tous les filaments sont dans une région où il y a une interface au milieu du filament. Ça, c'est ce qu'ils appellent une hétérogité des filaments. Et puis si vous augmentez beaucoup oméga, ça veut dire que vous augmentez beaucoup l'échange entre le réservoir et les filaments, la seule chose qui compte, c'est l'attachement et le détachement des moteurs. Ça veut dire que si oméga est grand, alors les images que je vous ai montrées la dernière fois, c'était pour oméga plus grand que 10, donc pas mal plus grand que cette chose-là, la densité sur le filament est constante. C'est rho, k sur 1 plus k, où k c'est la constante d'équilibre de Langmuir, c'est k1 sur k off. Ce que ça nous dit ça quand même, c'est que le système est intrinsèquement hétérogène, sauf si on a un échange très grand entre les filaments et le réservoir, et qu'il y a deux types d'hétérogénéité. Si vous regardez ça, vous voyez qu'il y a deux façons de régler ou de contrôler l'hétérogénéité. Un, c'est de varier oméga, c'est de varier la processivité des moteurs, le temps qui passe sur le filament. Et l'autre, c'est de moduler la connectivité du réseau. Alors, je vous ai dit que mon réseau était un peu bizarre. Ici, il a 30 connexions en moyenne par filament, donc il y a énormément de filaments sur tous ces sites-là. Ils ont une autre façon de le faire. Ce qu'ils font dans leur simulation numérique, c'est que sur chaque filament, ils calculent la densité moyenne et puis ils regardent la probabilité d'avoir une certaine densité moyenne. Alors c'est plus simple de regarder ici, quelle est la valeur intermédiaire ici, C égale 10. Vous voyez que si oméga est petit, c'est-à-dire si je suis ici, il y a deux pics, un pic basse densité et un pic haute densité. Ça veut bien dire que j'ai deux types de filaments, ceux où il y a beaucoup de moteurs et où les moteurs vont lentement, et puis ceux où il n'y a pas beaucoup de moteurs, et où les moteurs vont vite. Et puis si vous augmentez oméga, si vous augmentez l'échange, donc vous diminuez la processivité, il n'y a plus qu'un seul pic, et il se situe au milieu, et leur hypothèse qui est confirmée par ce qu'ils ont fait avant, c'est que ici, ce qu'ils voient, c'est des filaments qui sont eux-mêmes hétérogènes. Donc ça, c'est les choses qui viennent des simulations numériques. Il y a la même chose pour C égale 2, vous allez me dire C égale 2, c'est absolument trivial, sauf qu'il y a une fluctuation du nombre de la connectivité entre filaments, donc il y a entre points de réticulation, donc il y a des endroits où il y a plusieurs filaments qui se rencontrent, et puis il y a des endroits où il y en a très peu. Et ça, c'est un peu singulier, parce que dans ce cas-là, la simulation n'est pas tellement en accord avec le modèle de champ moyen. Donc simplement, sur un réseau, ce qu'on a en plus, c'est cette hétérogénéité qui apparaît sous une forme ou sous une autre. Et le paramètre qui joue un rôle, c'est ce paramètre d'accrochage et de décrochage des moteurs sur les filaments. Donc voilà ce que je voulais rajouter sur cette question-là. Je vais changer de sujet maintenant, un peu à cause de ce que je veux raconter après. Ce que je vous ai dit dans le premier cours, c'est que le matériau biologique, il est transporté dans des vésicules et que ces vésicules, elles sont transportées par des filaments sur les moteurs. Donc ça pose deux questions. La première question, c'est comment est-ce qu'on fait des vésicules à partir des membranes, qui n'a pas grand-chose à voir avec les moteurs, mais que je vais, sur lesquels je vais passer un peu de temps parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on transporte les vésicules. En gros, on a deux façons de le faire. Soit on les transporte avec un seul moteur, soit on les transporte avec plusieurs moteurs. Et qu'est-ce qu'on gagne et comment on le gagne en faisant ça? Donc je vais commencer par ce que j'ai appelé le bourgeonnement des vésicules. Supposez qu'on a une membrane, par exemple une partie de membrane qui est plate dans le réticulum endoplasmique. Comment est-ce que cette membrane peut émettre des vésicules ? La réponse, elle est très claire et très simple, c'est qu'elle peut, elle émet pas des vésicules si la membrane est constituée que de phospholipides. Elle émet des vésicules parce qu'il y a des protéines qui viennent s'accrocher à la membrane et qui lui donnent une courbure spontanée. Donc le paramètre important, ça va être la courbure spontanée de la membrane. C'est ce que j'avais appelé C0. Alors ces vésicules, ces protéines, dans la littérature anglo-saxonne, elles s'appellent cotamères. Le mot n'est pas très joli, moi j'appellerais ça des protéines de courbure. Donc la façon dont ça se passe est schématisée sur ce schéma-là. Alors ce que je vais suivre dans cette section, c'est un article qui a été fait par Lionel Fauré, qui est à l'École normale, Pierre Sens qui est juste là, et qui fera le séminaire après. Donc vous avez une membrane ici, vous avez un flux de vésicules de protéines de courbure sur la membrane, donc un flux j-ion qui arrive sur la membrane. Une première remarque, c'est que du point de vue de la physique, s'il y a un flux j-ion, ça veut dire que ce n'est pas un problème à l'équilibre thermodynamique et que c'est forcément un problème hors d'équilibre. Donc les protéines arrivent avec ce flux j-ion, puis elles ont tendance à s'associer. Alors quand elles s'associent, comme elles aiment bien la courbure, elles vont former, alors j'appelle ça des coques ou des calottes sphériques, elles s'agrègent, les agrégats font des calottes sphériques, la membrane va adhérer à ces calottes sphériques, et ce que vous avez là, c'est un embryon de vésicule qui n'est pas complète. Il va rester, si elle reste sous cette forme-là, des calottes sphériques qui vont rester sur la membrane et qui ne sont pas très utiles parce que celles-là, elles restent collées à la membrane et donc elles ne permettent pas de bourgeonner. Si vous augmentez J-ion, il y a de plus en plus de protéines qui arrivent ici. Certaines de ces protéines vont se compléter et faire une vésicule entière, et c'est les vésicules entières qui se détachent. Donc il y a un flux de vésicules qui sort. Le flux de vésicules, c'est juste le nombre de vésicules fois la probabilité de détachement. Donc il y a un taux de détachement. Que je vais appeler KV. Et puis il y a un flux N de LV fois KV, ou N de LV, c'est le nombre de vésicules qui ont la taille complète, que j'appelle LV ici. Alors, il y a une troisième chose, ça enlève de la membrane et des protéines de la surface. Il y a une troisième chose qui se produit, c'est que les particules, les protéines individuelles, peuvent se décrocher. Elles peuvent se décrocher à la fois quand elles sont des vésicules ou quand elles sont seules sur la surface. Donc il y a un flux de détachement. Je vais appeler grand J-off. Donc voilà la question que je veux poser. J'ai deux paramètres qui vont être le taux associé à ce flux de détassement et le flux de protéines qui arrive sur la surface. Et la question, c'est comment est-ce qu'il faut régler ces deux paramètres pour avoir un flux de vésicules qui part de la surface que je peux contrôler. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à l'agrégation sur les vésicules. Alors c'est une polymérisation, ça veut dire que deux protéines ont tendance à s'accrocher pour faire cette côte-là, ou c'est un problème d'agrégation, les liens sont peut-être physiques entre ces protéines. Ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir la distribution de taille de ces coques. Donc je vais appeler N, L. Ça, ça va être le nombre de protéines, le nombre de coques par unité de surface qui contiennent L protéines. Alors, le modèle que je vais vous écrire là, c'est un modèle très très classique de phénomène d'agrégation. Je vais décrire la cinétique d'agrégation du phénomène parce que j'ai forcément quelque chose qui est hors équilibre. J'ai un flux entrant et puis j'ai un flux sortant. Et si j'attends suffisamment longtemps, ce que j'espère, c'est qu'il y a un état stationnaire et que j'aurai un flux de vésicules stationnaire qui peut sortir. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais appeler, comme ils sont appelés dans l'article, la polymérisation, c'est-à-dire la... Le fait que les coques grossissent, la bonne façon de le voir, c'est de le voir comme une réaction chimique, c'est-à-dire qu'une coque qui a N-1 protéine, elle attrape une protéine supplémentaire, ça devient une coque de L protéine. Donc si je l'écris comme une réaction chimique, une coque de N-1 protéine plus une protéine donne une coque de L protéine. Il y a des taux de réaction, des taux d'accrochage et des taux de décrochage. Ici, c'est Kp de L-1, ça c'est le taux d'accrochage des protéines entre elles. Ce qui est simple, c'est de supposer que ce taux est constant. Donc je vais supposer qu'il est indépendant de L-1. Et puis, il y a un taux de décrochage que je vais appeler KD. Et puis, j'ai une chaîne comme ça. Les protéines avec L monomère, elles vont pouvoir donner des protéines à N plus 1... Pardon, les coques avec L protéine, elles vont pouvoir donner des coques à L plus 1 protéine, etc., etc. Ce qui va m'intéresser, c'est le flux qui est induit par cette réaction chimique vers L. Donc, je vais appeler JL polymérisation ce flux. Il y a un terme d'accrochage, ça c'est Kp. Et puis, ça c'est une cinétique du deuxième ordre, donc c'est proportionnel à la densité de protéines isolées, N1. Fois N indice L-1. Ça c'est le flux dans cette direction-là. Et puis il y a le flux qui va dans l'autre sens. Je perds les vésicules de taille L parce que elles peuvent se décrocher et devenir L-1. Donc, moins KD, ça, c'est N de L. Donc, voilà le flux qui est dû à la polymérisation. J'ai dit qu'il y avait aussi un flux de protéines qui se détachent. Donc, je vais écrire le détachement. Ça, c'est un flux J off de L. Ça, c'est le flux des molécules qui ont L protéines, qui perdent des protéines parce que les protéines se détachent. Il y a un taux de détachement, K off, fois L, fois NL. C'est proportionnel au nombre de vésicules, mais c'est aussi proportionnel au nombre de protéines dans une vésicule. Le flux total... C'est J égale JL, J polymérisation. Ça, c'est pour la taille L. Ça, c'est le flux qui fabrique par polymérisation des vésicules de taille L. Et ça, c'est le flux où les vésicules de taille L disparaissent parce qu'elles émettent des objets. Si je veux écrire une équation de conservation, dNL sur dt, JL, JL, il me fabrique des vésicules de taille L, Mais le JL plus 1, il prend ses vésicules de taille L pour les transformer en vésicules de taille L plus 1. Donc la variation du nombre de vésicules de taille L, c'est juste le flux en L moins le flux en L plus 1. Alors vous allez me dire, c'est fini parce que je connais J, et puis j'ai une équation pour NL. Je vais essayer de pousser un peu plus loin, et en revenant sur la polymérisation. Si je suppose que la polymérisation est à l'équilibre, les constantes cinétiques doivent satisfaire la relation qu'on appelle la relation de bilan détaillé. Ça me dit que Kp sur Kd de L, donc Kp de L-1 sur Kd de L, égale exponentielle moins la différence d'énergie entre l'état final et l'état initial. Ça, c'est l'énergie E de 1 plus E de L-1. Pardon, c'est l'inverse. C'est E de L divisé par KT. Ça me garantit que si je laisse la réaction se développer, si je laisse les protéines s'agréger, à la fin, la distribution satisfait la loi de Boltzmann, c'est-à-dire que la distribution de protéines de taille L, elle sera telle que le rapport entre N et L-1 est égal à la différence d'énergie entre L et L-1. Donc voilà la contrainte que doit satisfaire ça. Après, je peux prendre ça et le reporter là-dedans. Donc je vais écrire le flux de polymérisation JP de L. Je vais factoriser Kp fois N-1. Kp fois N1. Ici, j'ai N de L-1 moins. Alors, il va y avoir N de L sur N1. Et puis j'exprime Kd à cet endroit-là. Donc ça va faire exponentielle plus E de L moins E de 1 divisé par 4. Alors je vais rentrer le N1 dans l'intégrale ici. Et puis je vais réécrire ça d'une autre façon, donc c'est juste pour l'instant une manipulation algébrique. Hein. Je vais définir delta E de L. Delta de L fois KT égale E de L moins L fois E de 1 donc au lieu de caractériser ma vésicule par l'énergie de la vésicule de taille L, je vais retrancher ce terme-là, qui est quelque chose de très simple. C'est L fois l'énergie d'une vésicule de taille 1, pas simplement l'énergie, mais l'énergie libre d'une vésicule de taille 1. Ça, c'est l'entropie des protéines isolées. Ça, c'est l'énergie des protéines isolées. Si vous voulez, ça, c'est le potentiel chimique des protéines de taille 1. Ce que je suis en train de faire là, en termes un peu thermodynamiques, c'est que je suis en train de passer dans l'ensemble grand canonique. Je dis les vésicules isolées, elles jouent le rôle d'un réservoir, et l'agrégation, elle se fait à partir de ce réservoir. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas l'énergie de la vésicule de taille L, c'est l'énergie de la vésicule de taille L, moins l'énergie qu'elles avaient, moins l'énergie libre qu'elles avaient dans le réservoir. Si vous voulez, ça, si je considère que ça, c'est un réservoir, c'est l'énergie libre grand canonique. Donc un potentiel chimique constant. Maintenant, je vais vous laisser faire la manipulation algébrique. Ce que je prétends, c'est que Jp de L, alors c'est Kp N1, vecteur de N L moins 1 moins NL exponentielle delta E de L donc j'ai juste utilisé la relation de bilan détaillé, j'ai éliminé la constante de dépolymérisation et puis au lieu d'exprimer ça en fonction de E, j'ai exprimé ça en fonction de cette énergie grand canonique qui est vraiment l'énergie qui joue un rôle dans le problème. Alors si vous prenez delta E de L moins delta E de L moins 1, il va rester jusqu'à moins L ici, qui est ce qu'on avait là-bas. Maintenant, je vais passer à la limite continue. Ça, je l'ai déjà fait la semaine dernière, hein, quand je regardais les moteurs qui marchaient sur un réseau. Je vais supposer que L est très grand. Si L est très grand, le 1 qu'il y a là est très petit et je peux remplacer ça par la dérivée. Donc je peux remplacer la différence entre EL et EL-1 par la dérivée. Ce que ça vous donne, ça, c'est JP de L égale moins KP N1 facteur de DNL sur DL plus D de delta E de L alors ça a une tête assez familière ça c'est un courant diffusif si je considère que N est une fonction de L c'est J égale moins un coefficient de diffusion qui est ce KPN1 fois la dérivée de NL par rapport à L. Et ça, c'est un terme convectif, c'est la dérivée de l'énergie par rapport à L fois NL, qui est ma variable. Donc ça, c'est un flux de diffusion-convection dans l'espace où la variable est L pour cette variable NL, qui est la densité de protéines. Alors, ce n'est pas tout à fait le flux J total. Il faut que je prenne compte du flux J off. Alors, ce qui va compter, c'est J off de L moins 1, J off de L plus 1 moins J off de L. Non, J off. Je vais écrire J off de L. Ça, c'est K off NL fois L. Je vais faire une manipulation qui va vous paraître un peu bizarre, mais qui va me permettre de l'intégrer là-dedans. Ça, c'est K off NL fois la dérivée par rapport à L. La dérivée, ça doit être L. Donc, l'énergie associée, je vais appeler ça E de L2 moins 1 sur 2. Si je dérive L2 moins 1 sur 2, ça a le bon goût d'être 0 quand L égale 1. Et ça a le bon goût, quand je dérive, de redonner le L qui est là. Et après, ce terme-là, il ressemble fortement à celui-là. Donc, il suffit que je l'écrive. Kp N1 que multiplie K off sur KPN1. D sur DL de L2 moins 1 sur 2 fois NL. Bon, j'ai le même préfacteur que là. Ça, je peux écrire que c'est la dérivée d'une énergie effective. Et cette énergie effective, c'est E off égale K off sur KPN1 fois L2 moins 1 sur 2. Si je fais ça, je vais pouvoir introduire ce E off ici dans ce terme-là. Donc je vais écrire que le courant total J égale moins KPN1 DNL sur DL. Je vais l'appeler E tilde de L ou E tilde de L . J'ai pris le terme que j'avais plus JP, et puis j'ai rajouté ce terme-là qui a le bon goût de venir modifier l'énergie ici. J'insiste sur le fait que mon énergie, elle contient deux termes qui sont complètement différents. Le terme de polymérisation est un terme d'équilibre. Le terme avec E off, il décrit simplement le courant de molécules qui s'en vont. Si je suis dans un état stationnaire maintenant... Comment ? Il manque une dérivée ici, oui. Merci. Si je suis dans un état stationnaire maintenant, J est constant. Ça veut dire que K moins KP N1 facteur de et cette constante, je la connais, celle constante, c'est le courant que j'enlève avec les vésicules. Donc c'est ce que j'ai appelé le courant JV. Et c'est KV, taux d'expulsion des vésicules, fois le nombre de vésicules, N de LV. Donc voilà le courant associé à cette opération de polymérisation et de dépolymérisation et au terme JOF. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? D'abord, il nous manque l'énergie E. Alors il faut que je vous dise ce que c'est que l'énergie E de L. Alors, j'aurais pas dû s'éteindre, mais il s'est éteint. Ce que je veux faire, c'est regarder une coque comme ça. Et puis regardez ce que j'ai gagné et perdu comme énergie quand j'ai formé la coque. Une première chose qui est claire, c'est qu'au départ, j'avais une surface qui était le cercle qui est à la base de la coque. J'ai formé une sphère, donc j'ai augmenté la surface. Et en augmentant la surface, ça me coûte de l'énergie. Donc il y a un terme qui est gamma delta A, où gamma, c'est la tension de surface, et delta A, c'est la différence de surface entre la surface plane et la surface qui forme la vésicule. Une deuxième chose, c'est que les protéines de courbure, elles aiment être associées ensemble, mais les protéines de courbure qui sont au bord ici, elles ont un seul voisin au lieu d'en avoir deux. Ça veut dire que j'ai créé une tension de ligne. Les protéines qui sont au bord, ça leur coûte de l'énergie parce qu'elles ne sont pas associées à deux protéines comme elles voudraient, ou à deux dimensions, à toutes les protéines qu'elles auraient à côté d'elles. Donc il y a un terme que je vais écrire lambda fois le périmètre. Ensuite, la membrane dont je suis parti, elle suit la coque, parce qu'elle est attirée par la coque. Donc chaque fois que je crée un contact entre la membrane et la coque, je gagne de l'énergie. Donc je gagne une énergie qui est proportionnelle à l'air. Moins, cette fois, epsilon fois R, où epsilon, c'est l'énergie que je gagne, fois L, pardon, par protéine qui a suivi la coque. Puis après, il y a les termes de courbure. Alors, les termes de courbure, ils sont proportionnels à l'air. Je vais les écrire 2 kappa c moins c0 au carré plus k membrane. Alors, c'est pas ce que j'ai écrit dans le premier cours. J'avais écrit en fonction de la courbure totale. Ici, je vais supposer que la courbure totale que j'appelais H, c'est 2 fois C. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que ce que je vais obtenir, c'est des sphères, et la courbure d'une sphère, c'est 2 sur R. Donc ce C-là, c'est exactement 1 sur R. Et puis la courbure spontanée, c'est 2C0. Donc voilà l'énergie totale d'une coque qui a L protéines attachées. Alors, il y a une contrainte géométrique qu'on voit directement sur les dessins. La contrainte géométrique, c'est que les protéines de courbure, elles doivent couvrir toute la vésicule. Ça veut dire que l'air... Où est-ce qu'il est, mon machin ? Ça veut dire que l'air de cette surface courbée ici, je vais l'appeler A de la coque, ça c'est A plus delta A, c'est le nombre de protéines de courbure, L, fois la surface d'une protéine de courbure, S0, et même... faire comme Pierre, on met un 4π ici, parce que tous les 4π vont s'éliminer après. Voilà les termes d'énergie qui ont tous un sens physique clair et net et qui doivent bien exister. Ce qu'il faut faire après, c'est éliminer delta A en fonction de L, éliminer P en fonction de L, celui-là il est en fonction de L, éliminer A en fonction de L, et puis écrire l'énergie en fonction de L. Donc ça c'est purement de la géométrie, c'est un peu lourdingue, je ne vais pas vous le faire, je vous montrerai une courbe après de la façon dont ça se passe. Après, il faut décider ce qui fixe la courbure. La courbure, elle va être choisie simplement parce que l'énergie est minimum pour la courbure C. Alors là, la nature est sympathique avec nous, parce qu'en fait, le grand terme, c'est celui-là. Donc K est grand par rapport à tous les autres paramètres, ça veut dire qu'à la fin, C égale C0. C égale C0 si tant est que L est inférieur à... Alors, je ne sais pas ça. C spi K et si on prend des nombres raisonnables, ce nombre-là est égal à 10 puissance 5. Et si on regarde les tailles des vésicules, le nombre de protéines est toujours bien plus petit que 10 puissance 5. Donc de façon assez sûre, ce terme-là va s'annuler. C va être égal à C0 ici. Il y a des C cachés là-dedans, Donc voilà ce qu'on va prendre comme, comme énergie. Qu'est-ce qu'on fait après ? La stratégie est la suivante. Je fixe N1, donc je fixe le nombre de protéines qui ne sont pas agrégées. Une fois que n a est fixé, je résous cette équation-là. Ça va me donner n de l pour tout l. Et puis, ça va me donner le flux JV qui sort à la sortie. Donc ça va me donner la distribution de taille des vésicules. Donc avec le courant, puis après, il faut que je calcule N1. Pour ça, je vais écrire la conservation des protéines. Alors le dessin est bien fait parce qu'il suffit de regarder le dessin. Donc ici, j'ai ma surface avec des coques ici, des vésicules entières qui n'ont pas bourgeonné encore. Il y a un flux entrant qui est J-on. Il y a un flux sortant qui est la somme de tous les J-off pour toutes les vésicules qui sont là. Et puis un flux sortant qui est dû au nombre de vésicules. Donc ça veut dire que le J-on, il est égal à JV, ça c'est ce qu'on perd en bourgeonnant les vésicules, plus JOF, ou JOF, c'est la somme sur tous les L de petit JOF. JON est fixé, ça je sais le calculer parce que j'ai la distribution de vésicules, ça je sais le calculer parce que j'ai les distributions de vésicules, et en écrivant cette équation-là, ça me fixe N1. Alors, il y a en gros trois cas possibles. Qu'est-ce qui se passe si N1 est tout petit? Ça, c'est comme dans tous les phénomènes d'agrégation. Si N1 est très petit, il n'y a pas d'agrégation du tout, ou il y a une probabilité très faible d'avoir de l'agrégation. Donc si N1 est tout petit, la seule chose que j'ai, c'est des protéines isolées. Il y a une certaine probabilité d'avoir des coques sur la surface, il y a une certaine probabilité que les vésicules se referment. Tout ça, c'est négligeable. Ça veut dire que J-on, JV, c'est zéro, il n'y a pas de vésicule complète, et J-off, c'est uniquement les protéines isolées qui s'en vont, donc ça, c'est K-off N1. Ça veut dire que N1, c'est J-on sur K-off. Si N1 est très très petit, JV est égal à 0, ça veut dire que le flux est nul ici. Ça c'est une équation de diffusion-convection avec un flux nul, et vous connaissez la réponse pour une équation de diffusion-convection avec un flux nul. N de L, c'est simplement une loi de Boltzmann. Donc N de L, NL, égale, proportionnel, potentiel moins utile de L. Donc voilà ce qui se passe quand N1 est très petit. Si j'augmente un peu N1, je vais avoir une courbe pour l'énergie qui est comme ça. Elle augmente. Elle a toujours un maximum. Alors elle a un maximum à cause de la courbe du périmètre, parce que si on est très près de LV, le périmètre tend vers 0. Et ça, ça crée un maximum qui est très très près de LV ici. Si vous regardez la distribution de N, qui est la courbe ici, il n'y a que des protéines, ça tombe extrêmement vite à zéro, et tout le reste est inexistant. Donc après, j'augmente J-off. Si j'augmente J-off, la courbe va s'incurver comme ça, jusqu'au moment où elle voit un point d'inflexion à tangente horizontale. Je vais appeler N agrégation le point d'inflexion à tangente horizontale. Donc j'augmente N1 jusqu'à N agrégation. Ensuite, la courbe a un point d'inflexion à tangente horizontale. Ce point d'inflexion, il va se dégénérer en un maximum et un minimum. Donc, au-dessus de N agrégation, Il y a trois extréma. Ce point d'inflexion dégénère en ce maximum-là et ce minimum-là, puis il y a un maximum qui est toujours au voisinage, ici en zéro. Ça veut dire que j'ai, si je regarde N1, il y a un pic. Si je regarde L, il y a un pic pour N1, il y a un pic pour le minimum ici, ça c'est les agrégats que je fabrique, donc je fabrique des agrégats de Thales Star. Plus protéines isolées. Ça veut dire que J off, c'est N1 K off, c'est K off, facteur de N1 plus L star. Alors qu'est-ce qui se passe quand on augmente N1 au-dessus d'une agrégation? C'est quelque chose qui est très connu des physico-chimistes. Si vous prenez une solution de molécules de savon, elle forme des micelles. Vous augmentez la concentration. En dessous de la concentration micellaire critique, il n'y a pas de micelle. Mais dès que vous obtenez cette concentration, la concentration en solution reste constante et la seule chose que vous fabriquez, c'est des micelles. Donc ça veut dire que dans ce régime-là, N1 est à peu près constant et la seule chose que je fabrique, c'est des coques de taille L star. Et puis je ne fabrique pas plus grand parce qu'ici, il y a une barrière de potentiel. Si je continue à augmenter J off, ce minimum-là se rapproche de la droite, ce minimum-là va vers la gauche, et il arrive un moment où, pour une deuxième valeur caractéristique, le minimum et le maximum fusionnent. C'est un deuxième point d'inflexion à tangente horizontale. Si vous faites disparaître ces deux maxima-là, vous allez obtenir une courbe comme ça. Si je regarde N maintenant, dans ce régime-là, je vous ai dit N1 n'augmente pas beaucoup. Ceci dit, si vous augmentez le courant J-ON, vous avez une augmentation de L. Ce pic se décale vers la droite. Et puis vous voyez que ici, il y a franchement zéro vésicule. Ici, il y a un tout petit nombre de vésicules. Mais s'il y a un tout petit nombre de vésicules, ça veut dire que ça commence à bourgeonner. Il y a des vésicules qui s'en vont. Et ça enlève de la matière de la surface. Et puis si je passe cette deuxième transition, il y a une barrière de potentiel ici. Puis après, le minimum, c'est des vésicules de la taille maximum, qui est la taille des vésicules. Donc je fabrique beaucoup de vésicules. Ces vésicules ont une probabilité de partir et il y a un bourgeonnement. Donc le seul régime où il y a un vrai bourgeonnement, c'est ici. Donc ce maximum qui jouait absolument aucun rôle au début, petit à petit il a shifté vers la gauche en augmentant J, et en shiftant vers la gauche il nous a amené dans cette configuration là où je fabrique plein de vésicules, et si je fabrique plein de vésicules, ça bourgeonne. Maintenant il faut que je rende le problème consistant, il faut que j'écrive cette relation là. À partir du moment où, même ici, hein, s'il y a des vésicules qui fabriquent, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a un flux JD, et il faut calculer J off et JD. Alors c'est là que c'est un peu plus compliqué que ce que moi j'aurais pu attendre. Je remercie Pierre Sens. On a eu beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Le problème n'est pas complètement réglé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce que je trace ici, c'est une valeur de J-ON. Je peux calculer JV, parce que j'ai résolu cette équation-là. Et je peux faire ça partout. Je peux calculer JV, je peux calculer J-OFF. Et puis la surprise, c'est que J off plus JV, moi j'aurais attendu à ce que ça croisse de façon monotone. En fait, il y a un pic ici. Alors pourquoi il y a un pic? C'est là le point qui est un peu difficile à comprendre, au moins pour moi. Si vous regardez à la position du pic, l'impression qu'on a ici, c'est que JV est absolument égal à zéro. Ici, on ne voit même pas la ligne. Par contre, ici, c'est à peu près dans ce régime-là, vous voyez que JV est fini. Pourquoi il y a ça? Je ne sais pas. Pierre a fait un gros effort, il n'y est pas encore. Mais je pense que le résultat final est quand même correct. L'explication, c'est que les vésicules s'évaporent, et il y a suffisamment de vésicules qui s'évaporent pour que ça diminue le nombre total de molécules sur la surface. Et c'est ça qui crée le pic qui est là. Après, si vous regardez dans cette région-là, il y a trois points d'intersection, ça veut dire qu'il y a trois N impossibles, il y en a un qui est instable, et les deux autres sont stables. Ça veut dire que on a une transition de phase classique du premier ordre avec un effet réentrant, c'est ce qui est tracé ici. Si pour une gamme de paramètres qui correspond à ça, je trace le flux de vésicules en fonction de KOF. Alors KOF, c'est exactement l'inverse de JON. Quand vous augmentez KOF, vous diminuez le nombre de vésicules, et quand vous diminuez KOF, vous augmentez le nombre de vésicules. Et vous voyez qu'il y a une région ici où il y a trois solutions. Ça, c'est la solution instable. 0, c'est la solution où il n'y a pas de sécrétion. C'est celle-là. Et puis, celle-là, c'est la solution où il y a de la sécrétion. Donc, on a une espèce de cycle qui peut donner à de l'hystérésis ici et qui peut donner à des états qui shiftent entre cette ligne-là et cette ligne-là dans toute cette région-là. Et il s'avère que c'est des choses que les gens avaient un peu intuitées et qui s'appellent le shift de sécrétion. Alors voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Les deux points qui sont importants, c'est qu'il faut absolument des protéines de courbure, que c'est des effets franchement hors d'équilibre parce qu'il y a des flux qui vont vers la membrane et qui s'en sortent, et qu'il y a en gros deux barrières de potentiel. Il y a une barrière de potentiel à la fabrication de micelles, et puis il y a cette barrière de potentiel ici à la fabrication de vésicules totales. Ça a des implications pratiques. Évidemment, la cellule a besoin d'adapter son flux de vésicules aux cargos qui sont là. Que ce soit dans l'appareil de Golgi ou dans le réticulum endoplasmique, s'il y a moins de cargo, la cellule s'arrange pour changer les paramètres pour que le flux de vésicules soit ajusté. Il y a deux façons de le faire. Soit on augmente JON, soit on diminue KOF. Dans l'appareil de Golgi, si on augmente le nombre de cargos, il y a un flux qui est plus important ou un KOF qui est moins important. Je crois, d'après ce que j'ai compris, qu'on ne sait pas quel est le mécanisme qui joue. Par contre, dans le réticulum endoplasmique, quand on diminue le nombre de vésicules, KV augmente, et la façon dont il voit ça, c'est que l'échange de vésicules entre l'échange de protéines entre le cytosol et le réticulum endoplasmique est bien plus important. Ça veut dire que KOF est grand. Donc, dans le réticulum endoplasmique, c'est plutôt KOF qui est augmenté quand il y a moins de cargo. Dans l'appareil de Golgi, je ne crois pas qu'il y ait de résultat. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, je n'ai pas trouvé de résultat qui indique ça. Donc voilà un modèle qui est relativement simple, qui est basé sur la physico-chimie classique et qui permet d'expliquer le fait qu'on fait des vésicules. Donc après, il faut transporter les vésicules. Alors je vais être très très bref là-dessus. Je vais faire ça un peu à l'envers de ce que je fais d'habitude. Je vais commencer par vous montrer une manip. Puis après, je vous montrerai comment est faite la théorie sans vous la présenter. Donc, c'est le transport d'une vésicule par plusieurs moteurs. Je ne sais plus où j'en suis. C'est 3 maintenant. Alors, ça, c'est une expérience qui a été faite à Berlin, dans le laboratoire de Rumiana Dimova. C'est une expérience modèle. Donc, ce qu'elle regarde, ce n'est pas une vésicule transportée par des moteurs, mais c'est des billes de polystyrène. Et la façon dont est faite l'expérience, c'est qu'elle met les moteurs en solution, elle plonge les billes à l'intérieur de la solution, et après elle mesure le volume effectif de la bille avec les moteurs qui s'y sont accrochés par diffusion de la lumière. Et comme ça, elle arrive à compter les moteurs. Donc le volume, il augmente, puis à un moment, ça sature. Ça veut dire que vous avez accroché tous les moteurs que vous pouvez accrocher sur cette bille et le nombre de moteurs n'augmente pas. Si elle calibre les choses, le nombre de moteurs qui est accroché sur les billes, c'est entre 2 et 7. Et elle peut modifier le nombre de moteurs en changeant la concentration dans laquelle elle incube les billes de polystyrène. Donc c'est ça l'idée. Après, elle fait un test où elle fait se déplacer les billes, ça c'est des tests classiques avec les moteurs moléculaires sur des microtubules, les moteurs étant des kinésines, dont je vous ai parlé au premier cours. et la vitesse d'avancée est constante. Alors c'est quelque chose qui est attendu, hein. À peu près toutes les théories disent que la vitesse doit être constante. Vous allez me dire, il y a une force hydrodynamique. Je vous laisse calculer les ordres de grandeur, c'est des femtonewton ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui est infiniment petit par rapport à tout ce que peuvent faire les moteurs. Donc le fait qu'il y a une force hydrodynamique, ça compte absolument pas dans ce problème-là. Donc c'est pas choquant que ça se balade à vitesse constante. Les points à haute concentration sont un peu anormaux, mais c'est quelque chose qui est attendu parce que le nombre de moteurs à haute concentration a un comportement un peu bizarre. Donc la vitesse est la même. Par contre, la processivité des billes sur le filament change. Ça veut dire que plus il y a de moteurs, plus les billes avancent sur le filament et font des distances de plus en plus grandes quand le nombre de moteurs augmente. Donc l'effet d'avoir plusieurs moteurs, c'est d'augmenter la processivité. Alors ce qu'elle mesure là, c'est la distribution des temps, ou la distribution de processivité, la distribution de longueur sur laquelle les billes marchent sur le microtubule avant de se détacher. Donc la distribution est très étroite à cette concentration-là où il y a très peu de moteurs, et puis au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de moteurs, la distribution s'élargit, ce qui veut dire que la longueur de processivité, la longueur sur laquelle la bille marche, devient de plus en plus importante. En fait, elle croît exponentiellement avec le nombre de moteurs. Alors, ils ont une théorie qui a été faite par Stefan Klumpt et Reinhard Lipowski. Cette théorie calcule la distribution de longueur de processivité. Ils ajustent et ça leur permet de calculer le nombre de moteurs attachés. Alors, je vous ai dit qu'il y avait entre 2 et 7 moteurs par bille. Si on regarde les moteurs actifs, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en contact avec le filament, il y en a entre 1 et 3 dans ces expériences-là. Alors, j'ai juste vous montrer ce que je voudrais passer à la suite, l'idée du modèle. Alors dans le modèle, il parle de vésicule. Si vous avez une vésicule avec grand N moteurs et qu'il y en a petit n qui sont accrochés ici, il peut perdre un moteur. Et ça, c'est le taux epsilon petit n de détachement des moteurs du filament, où il peut gagner un moteur. Et ça, c'est le taux d'attachement qu'ils appellent Pn. Il y en a deux de ces taux qui sont particulièrement intéressants. Le premier, c'est epsilon 1. C'est-à-dire s'il ne reste plus qu'un moteur attaché, soit il y en a d'autres qui se rattachent et la vésicule reste attachée, soit le dernier il s'en va, et dans ce cas-là la vésicule se détache. Le point que je veux faire avec ça, j'ai passé plus qu'une heure à vous faire des calculs de temps de premier passage. Ça c'est le temps de premier passage à zéro moteur attaché, qui dans ce cas-là est extrêmement facile à calculer. Et puis l'autre c'est si la vésicule n'est pas attachée, le premier moteur qui s'accroche, il attache la vésicule. Donc ça, il n'y a pas de surprise, c'est le pi 0 du premier moteur. S'il y a zéro moteur, il y en a un qui peut s'accrocher. Et puis, l'endroit où ils vont, c'est qu'ils calculent exactement ce que je vous ai dit qu'il fallait calculer pour les temps de premier passage. Ils calculent la probabilité que la bille marche à une longueur n. Autant le temps de premier passage, il est très très simple à calculer dans cette histoire-là. La probabilité, elle est un peu plus subtile. On trouve une somme d'exponentielles, mais plus il y a de moteurs, plus la portée de l'exponentielle va loin. C'est ce que vous voyez ici. Si n égale 1, elle s'effondre tout de suite. Si n égale 2, elle est comme ça. Si n égale 3, elle est comme ça. Et si n égale 4, elle est encore plus grande. Alors, il donne des ordres de grandeur qui sont peut-être la chose la plus intéressante. Donc, pour la kinésine, alors, c'est la kinésine 1, contrairement à ce que je vous avais dit au premier cours. Le taux de détachement epsilon, c'est 1 seconde moins 1. Le taux d'attachement ramené à un moteur, c'est 5 secondes moins 1. Et la vitesse, c'est 1 micromètre par seconde. Si vous avez un seul moteur, La longueur de processivité, c'est-à-dire la longueur sur laquelle la kinésine marche sans se détacher, c'est 3,5 microns. C'est 3,5 microns. Si vous avez 5 moteurs, c'est 311 microns. Puis après, ça croît exponentiellement et ça devient tout de suite gigantesque. Alors, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui se passe si j'ai un vrai problème, c'est si je regarde les neurones. Alors, ce que j'ai appris, que je ne savais pas, mais en lisant ça, c'est qu'il y a deux types de transport dans les neurones. Il y a un transport lent et un transport rapide. Le transport lent, c'est des vésicules qui sont transportées par un moteur. Donc le moteur, il a un temps de processivité assez court. Il se décroche, il se raccroche. Et là, il faut des jours pour faire des distances raisonnables. Le transport rapide, il a plusieurs moteurs et on arrive à des vitesses moyennes. Alors, où est-ce que c'est ? Je n'arrive pas à le trouver. De 1 micromètre par seconde en moyenne. Ça veut dire que le moteur reste pratiquement tout le temps attaché et les vésicules se détachent pas de façon quantitative. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Je suis très bref. Dans mes notes, il y a le calcul de cette histoire-là, qui est très simple et qui n'a pas trop d'intérêt. Ce que je préfère, c'est passer à la suite parce que je veux commencer à vous montrer des choses sur le réticulum endoplasmique. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc je passe au chapitre suivant, qui est le chapitre sur le réticulum endoplasmique. Alors, il faut que je passe là. Puis je change ici. Je vais simplement redire pour commencer ce que j'avais dit dans le premier cours, de façon très brève. C'est que ce qui va m'intéresser sur le réticulum endoplasmique, c'est les structures membranaires qu'on peut observer. Dans les, 15-20 dernières années, les méthodes d'observation, les méthodes optiques d'analyse des objets biologiques ont progressé de façon très très spectaculaire et on arrive à détecter des structures de plus en plus précises dans le réticulum endoplasmique et aussi malheureusement de plus en plus compliquées. Donc je vais en prendre quelques-unes, enfin c'est pas moi qui ai fait ça, mais je vais vous montrer quelques-unes qui ont été observées. Ce que je vous ai dit dans le premier cours est vrai, c'est qu'il y a deux types de structures en gros. Il y a des structures planes, j'appellerais ça des feuillets. Et puis il y a des tubes. Alors les structures planes, elles sont observées surtout dans le réticulum endoplasmique rugueux. J'y reviens dans 5 minutes, ça c'est au voisinage du noyau. Et les tubes, c'est plutôt dans le réticulum endoplasmique lisse, c'est-à-dire dans la région périphérique, plutôt loin du noyau. Il n'y a pas de frontière très brutale entre les deux, donc c'est quelque chose qui est continu. Il peut y avoir à certains endroits y avoir les deux types de structures. Alors ça fait des tubes, mais ça fait aussi des tubes branchés. Alors évidemment, une membrane où il n'y aurait que des phospholipides ne fait pas de choses comme ça. Donc dans les deux cas, il y a des protéines qui permettent d'assurer ces structures-là. Alors, il y a des protéines qui permettent d'assurer des structures planes. J'avoue, je ne connais pas bien les noms, c'est Klimt-63 ou P180. Alors les choses sont un peu plus subtiles que ce que je vous ai dit, même beaucoup plus subtiles que ce que je vous ai dit jusque-là, parce que j'ai une légère tendance à vouloir simplifier les choses. Mais les feuillets, ce n'est pas une bicouche, ce n'est pas une membrane, c'est deux membranes parallèles. Et ce que font ces protéines, notamment Klimt-63, c'est qu'elles maintiennent les deux membranes parallèles à une distance donnée, qui est quelque chose comme entre 30 et 50 nanomètres. Donc c'est des structures à deux bicouches parallèles. Après, il y a des structures courbées. Il y a les vésicules dont je viens de parler. Pour former les vésicules qui après vont transporter les protéines de sécrétion, la protéine principale, elle s'appelle COP2. Pour ce qui est des tubes, la protéine qui semble jouer un rôle principal, c'est ce qui s'appelle le réticulome. Euh, C'est une protéine dont on peut changer le nombre dans le réticulum endoplasmique si on s'arrange. Nicolas Minc, par exemple, fait beaucoup ça, a rajouté beaucoup d'une protéine qui s'appelle atlastine. On augmente le nombre de ces protéines de courbure ici et on casse complètement le réticulum endoplasmique en billes. C'est certainement cette protéine qui est à l'origine de fabrication de tous les tubes qu'on voit ici. C'est un peu ce que je viens de décrire sur les coques. Les protéines de courbure imposent une courbure spontanée à la membrane. Là, ça, c'est un peu un résumé de ce que j'avais dit au début. Il y a un point que j'avais mentionné, mais sur lequel je n'ai pas insisté, qui est que le réticulum endoplasmique est traversé par les microtubules. Donc, il y a une interaction forte entre le réticulum endoplasmique et les microtubules. Alors, certaines des structures dont je vais parler se dissocient si on dépolymérise les microtubules. Il y a même des effets plus spectaculaires. Alors, je n'ai pas été chercher très loin. Je vais vous montrer deux choses sur lesquelles j'ai travaillé personnellement. Le premier, c'est des expériences qui étaient faites par un collègue japonais qui s'appelle Aki Kimura. Ça se passe dans le zygote de C. elegans. Donc, c'est juste après la fécondation. On regarde le zygote et puis la cellule se met à tourner à l'intérieur. Il y a un écoulement cytoplasmique et cet écoulement cytoplasmique, il est dû à des moteurs qui marchent sur les microtubules, c'est des kinésines, mais qui sont ancrés dans le réticulum endoplasmique. Donc voilà l'image qu'avait fait Kimura. En vert, vous avez les microtubules. En rouge, vous avez le réticulum endoplasmique. Vous voyez que l'intérieur de la cellule tourne. Si on dépolymérise les microtubules, il n'y a plus rien. Si on dissocie le réticulum endoplasmique, il n'y a plus rien. Donc après, à partir de cette idée qu'il y avait des moteurs qui étaient ancrés dans le réticulum endoplasmique et qui marchaient sur les microtubules, on avait fait avec un étudiant qui s'appelle Alexandre Maman un modèle pour cet écoupement-là. Il y a un deuxième exemple qui, pour moi, est plus récent. C'est un peu le même type d'objet. C'est les zygotes d'oursin, cette fois. Donc, c'est des œufs d'oursin qui ont été fécondés. Et juste après la fécondation, il y a une phase qui, comme chez les eucaryotes, s'appelle la méiose. C'est là où les chromosomes du père et de la mère vont se mélanger. Et ce qui se passe en méiose, c'est que l'astère de microtubules va se centrer. Donc, vous voyez l'astère de microtubules qui se centre ici. Et puis, ce que vous voyez, je recommence, il y a un point blanc qui apparaît. Ça, c'est le noyau femelle, et l'astère de microtubule capture le noyau femelle. Vous voyez, hop, le noyau femelle arrive par-dessous, il se fait capturer par l'astère de microtubule. Alors, ce sur quoi je veux insister, c'est que ce mécanisme-là, donc il faut des moteurs pour transporter l'astère de microtubule, c'est aussi des kinésines. Et là aussi, elles sont ancrées dans le réticulum endoplasmique. Donc, je vais vous montrer la même image sur le réticulum endoplasmique. Donc, on regarde le réticulum endoplasmique. Vous voyez qu'il se concentre au milieu. Je vais le repasser. Il va se mettre autour du noyau femelle aussi. Et sa concentration est extrêmement accrue à l'endroit où se trouve le centre de l'astère de microtubules. Donc ça, c'est des expériences qui ne sont pas publiées, qu'on est en train d'écrire. Et là aussi, on a fait un modèle avec Serge Dmitriev et Denis Wortmüller, qui est à Curie, pour essayer de calculer le mouvement couplé de l'astère de microtubules et du réticulum endoplasmique. Donc même si je ne vais pas en parler beaucoup pendant la suite, alors les manips, elles ont été faites par un étudiant de Nicolas Minc qui s'appelle Jérémy Salle. Même si j'en parle pas beaucoup pendant la suite, les microtubules sont toujours là et parfois ils jouent un rôle essentiel. Donc ce par quoi je voudrais finir, c'est vous parler un peu plus en détail que ce que j'ai fait pendant le premier cours de la structure des réticulums endoplasmiques. Alors il y a un article qui m'a assez fasciné, j'avoue, qui est un article qui a été fait par le groupe de Jennifer Limpinkel-Schwartz, qui est un spécialiste de la microscopie optique à très haute résolution. Et l'article, le premier auteur s'appelle Obara. Donc c'est un article de revue. Et donc je vais suivre, je ne vais pas vous passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vais suivre sa démarche. Donc elle dit, il faut regarder le réticule endoplasmique à deux échelles, à l'échelle de la cellule, puis après il faut aller regarder à des échelles beaucoup plus petites que la cellule. Alors si vous regardez à l'échelle de la cellule, c'est cette image-là, là où vous avez des cellules voisines, on retrouve dans toutes les cellules à peu près la même chose. S'il y a des puristes, je peux vous dire ce qu'est la cellule. C'est des cellules humaines d'ostéosarcome du tibia, donc des cellules cancéreuses des os humains. Voilà ces quatre choses-là. Et après, elle classe les régions du réticulum endoplasmique par la densité du réticulum endoplasmique. Donc il y a une première région qui est juste là. Ça, c'est la membrane nucléaire. C'est la région la plus dense. Je vous ai dit que le réticulum endoplasmique était connecté à la membrane nucléaire. Donc voilà la membrane nucléaire. La membrane nucléaire, il lui arrive des tas de choses quand la cellule se divise, elle est dissociée et des choses comme ça. Le réticulum endoplasmique s'adapte à ça et en particulier la structure change. Pendant la mitose, il y a beaucoup moins de surface plane et beaucoup plus de tubes qui les remplacent. Ensuite, il y a une région périnucléaire. Ça, c'est ce que j'avais appelé le réticulum endoplasmique rugueux, qui est au voisinage du noyau et qui est cette région ici. Ensuite, il y a une région qu'elle appelle la région de transition. Ça, c'est un peu un mélange de ces deux régions-là. Et dans cette région de transition, c'est ce que j'avais appelé le réticulum endoplasmique lisse. Donc, les ribosomes, ils agissent ici. Les protéines sont synthétisées dans la région périnucléaire. C'est là qu'on voit tous les ribosomes sur le réticulum endoplasmique. Et dans la partie distale ici, on voit surtout des structures en tube. Et c'est là que sont synthétisées les lipides. Alors j'ai discuté de ça avec Bruno Good, qui a fait le... Et je lui ai dit, moi, mon résumé de cet article, c'est que la plupart du temps, quand on n'est pas au voisinage du noyau, quand on voit des surfaces planes, c'est qu'on se trompe et qu'en fait, c'est des tubes. Il m'a dit, oui, c'est ce qu'elle dit, mais elle exagère un peu. Donc voilà le commentaire un peu de Bruno qui tempère un peu ce que je vais vous dire après. Donc c'est... en tout cas, ici, on voit clairement des tubes, alors ils forment un réseau. Ça, c'est une image 3D du réticulum endoplasmique. Ça, c'est une image de cette région-là, où il y a à la fois le réticulum endoplasmique et les microtubules. Les microtubules, c'est les traits bleus qui passent ici, et vous voyez qu'ils sont complètement enchevêtrés avec le réticulum endoplasmique dans cette région-là. Et puis ça, c'est au voisinage du noyau, le réticulum endoplasmique d'une cellule cancéreuse qui est une cellule LR. Donc ça, c'est ce qu'on voit à petite résolution. Et puis après, il faut regarder à grande résolution. Alors, je ne vais pas vous faire de grands discours, je vais essayer de vous montrer ce qu'elle dit en montrant des images à faible résolution et puis des images à plus grande résolution par diverses techniques. Ici, elle se focalise sur cette région-là et quand vous regardez en champ large, vous avez l'impression que vous avez une structure plane. Puis si vous voulez aller en super résolution, l'illumination structurée. Vous voyez qu'en fait, ce n'est pas des feuilles ou des feuillets, comme je disais, c'est des feuillets percés. Donc il y a des trous et c'est des structures dont elle dit qu'elles apparaissent tout le temps dans le réticulum endoplasmique lisse. Un deuxième exemple est là. Donc elle regarde cette structure-là. Si vous la regardez en champ large ou en confocal, vous avez ça. STED, c'est une autre technique de microscopie haute résolution. Et si vous regardez en STED, vous voyez que ce n'est pas un feuillet, que c'est plein de feuillets qui sont empilés les uns sur les autres parallèles. Ça, c'est une structure du réticulum endoplasmique lisse. Les couleurs correspondent à la profondeur. Et donc, on voit qu'il y a des réseaux qui sont un peu tridimensionnels, que les gens appellent des matrices tridimensionnelles. Et puis ça, c'est une dernière image, pareil, où elle regarde une région qui s'avère être bien moins continue que ce que dirait la microscopie macroscopique. Cette méthode-là, c'est une méthode où les lipides sont marqués, alors qu'ici, c'est des protéines du réticulum endoplasmique qui sont marquées. C'est la protéine qui est indiquée là. Et ça, c'est une reconstitution 3D d'une partie du réticulum endoplasmique lisse. Ce que je retiens de ça, c'est qu'à toute petite échelle, il y a des structures qui sont très subtiles et qui parfois s'avèrent être relativement bien organisées. Je vais aller un peu plus dans le détail et parler des structures qui paraissent intéressantes. Ça, c'est plus ou moins la même chose que ce que j'ai montré, sauf que c'est le même endroit vu par des méthodes différentes et des comparaisons de méthodes différentes. Je crois que celle-là, c'est de la microscopie électronique. Ça, c'est la méthode Pate, où c'est les liquides qui sont marqués. Et ça, c'est de la microscopie optique super résolution. Donc, c'est ce genre de choses qu'elle fait. Et puis, il y a un certain nombre de structures qui sont un peu récurrentes, qu'on voit partout, et qui sont les choses sur lesquelles je voudrais discuter pendant le cours prochain. Alors, la première, c'est dans le réticulum endoplasmique rugueux. Vous avez des feuillets comme ça, donc je vous rappelle, c'est deux membranes. Ils sont couverts de ribosomes. Il y a aussi des tubes, et elles distinguent en bleu, c'est les ribosomes qui sont sur les tubes, et en vert, c'est les ribosomes qui sont sur des régions planes. Si vous allez dans le réticulum endoplasmique lisse, il y a des structures en tubes, mais souvent les tubes, ce n'est pas des cylindres, c'est des tubes qui, dont l'épaisseur varie avec la position comme ça. En voilà un ici, vous voyez un tube de la même structure qui est branché ici. Ces structures-là, je vais vous en parler dans 5 minutes parce que c'est ça que je voudrais décrire en premier. Ici, vous avez ce que j'ai montré, des structures qui sont un peu des gels à 3D avec des trous ou des structures avec des fenêtres. Ça, c'est des structures qui sont plutôt dans le réticulum endoplasmique rigide. C'est ce que les gens appellent des citernes, donc des objets un peu gros dans le réticulum endoplasmique rigide. Et puis la dernière chose qui peut être d'intérêt et dont j'ai parlé une fois, c'est les sites de sortie du réticulum endoplasmique. Il y a des sites bien déterminés où le matériau biologique, les protéines qui ont été synthétisées, sont empaquetées dans des structures et transportées jusque vers le Golgi. Il y a une structure ici qui est cette structure verte. La façon dont elle décrit ça, c'est que c'est un objet comme ça qui est replié sur lui-même. Elle le voit presque comme un polymère qui est collapsé sur lui-même. Donc j'essaie de vous montrer les modèles qui ont été faits pour cette chose-là. Donc c'est ça les structures qui ont retenu mon attention et qui ont été regardées par les théoriciens. Avant de m'arrêter, j'ai 3 minutes, je vais vous montrer ces structures-là que je trouve assez fascinantes, qui s'appellent les rampes de Terasaki. Ça, c'est un article des années 2010 dont le premier auteur est ce monsieur Terasaki. C'est assez étonnant, c'est un article qui a été publié dans une revue de biologie, dans Cell, pour ne pas le nommer, et il y a un commentaire par un physicien là-dessus, qui s'appelle, son nom va me revenir, qui est à Brown aux États-Unis. Donc c'est des feuillets, donc des doubles membranes, donc chacun de ceux-ci a un feuillet. Ils sont empilés, mais il y a des passages d'un étage à l'étage d'en dessous, exactement comme vous avez dans une rampe de garage. Alors ces structures-là, je vais vous donner la version physicien Jacques Pro, c'est une structure smectique, ça veut dire que la distance entre ces plateaux est assez bien fixée, c'est 200 nanomètres ou 300 nanomètres. Et puis si vous regardez de côté, alors je suis incapable de voir quoi que ce soit sur cette histoire-là, mais si vous regardez sur le côté, si vous regardez la structure inclinée à 30 degrés, vous voyez qu'on voit une rampe, on part de la rampe du haut, on tourne et on se retrouve au-dessus de la rampe du dessous. Après, pareil, on descend, on tourne, on se retrouve sur l'étage en dessous, etc., etc. Donc c'est exactement ce que vous avez dans les garages, dans les supermarchés. On voit ça dans plusieurs types de cellules, dans les corps cellulaires des neurones et puis dans les cellules sécrétrices des glandes salivaires. Alors ça tourne dans un sens ou dans l'autre, hein. Celui-là tourne dans l'autre sens. Je peux vous montrer un film si ça vous aide à voir ça. Voilà la structure et on voit le trou ici qui correspond à la rampe de garage. Pour des raisons qui sont que je vous expliquerai la semaine prochaine, ces structures ne sont jamais isolées, c'est-à-dire qu'on n'a jamais une dislocation, donc ces structures en termes de smectique, c'est des dislocations vis. On n'a jamais une dislocation vis, on a des dipôles de dislocation vis avec une qui tourne comme ça et une qui tourne comme ça. Et même dans l'article original de Terasaki, alors il y a un modèle théorique là-dedans qui me paraît moins pertinent que celui que je vous expliquerai, mais qui n'est pas très très différent, où il voit un réseau de dislocations vis avec une vers le haut, enfin une dans un sens, une dans l'autre, une dans un sens, une dans l'autre, et c'est ce qui est schématisé ici. Alors, il y a un film qui montre une paire de dislocations ici. Il y en a une qui tourne, ça tourne un peu vite, mais si vous regardez, il y en a une qui part dans un sens et l'autre qui part dans l'autre sens. Je crois que c'est un schéma, ça, parce que les structures sont vraiment extrêmement plates par rapport à ce qu'on fait sur les, dans les expériences de microscopie. Donc c'est ça ce que je veux commencer par discuter la prochaine fois. Je discuterai deux autres choses. Je discuterai les structures du réticulum endoplasmique lisse, et en particulier ces cylindres qui ont un rayon qui varie avec la position, et puis ce qu'on appelle les gouttes lipides, qui sont des lipides qui sont synthétisés dans le réticulum endoplasmique lisse et qui sont relâchés sous forme de gouttes dans le cytoplasme de la cellule. Je m'arrête là. Si vous avez des questions, je suis très prêt à répondre. Enfin, si tant est que je connaisse la réponse. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.